La prédication ce matin sera sur un texte de l'Ecclésiaste au chapitre 3. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin.
Des Bougains, on a célébré Noël, enfin toutes les fêtes de fin d'année, et je parlais à une dame de 96 ans, et on parlait du temps. Non pas le temps qu'il faisait dehors, mais le temps qui passait. Et elle me disait, à 96 ans, le temps passe vite. 96 ans, ben le temps passe vite. Et j'étais assez d'accord avec elle. Moi, quand j'ai vu s'afficher 2024, je me suis dit, déjà 2024. Je me souviens encore de l'an 2000, quand j'avais 12-13 ans, pas en l'an 2000, mais vers 12-13 ans, je me disais, waouh, en l'an 2000, j'aurai 37 ans. Et j'ai eu 37 ans en l'an 2000, et maintenant, beaucoup plus, 24 ans après, pratiquement, 23. Waouh, le temps passe vite. Et c'est le titre de cette prédication ce matin, 2024, ou comment gérer le temps qui passe, et le temps qui passe vite. Et pour parler du temps qui passe, je vous parle d'une expérience vécue. Une expérience personnelle vécue dans le TGV, le train grande vitesse. C'était, je crois, entre Valence et Montpellier. J'étais tranquille, j'étais peinard. Le train roulait à 200 km/h et je prends le magazine TGV qu'il y avait juste à côté de moi et je commence à le feuilleter et je tombe sur un article et un titre. Voilà le titre, « Slow devant ». Vous savez, comme les serveurs, chaud devant, chaud. Mais là, ils ont choisi slow, lentement, lentement devant. Et tout l'article était une invitation à ralentir. C'était un peu paradoxal, dans le TGV, train grande vitesse, une invitation à ralentir. Et l'article avait pour bandeau, après une décennie d'accélération des rythmes de vie, les appels à ralentir se multiplient. Il était temps. C'est intéressant, ça. Et il paraît que il y a beaucoup de... Non, je cite un autre auteur. « Pour rester synchro avec la société et ne pas tomber dans l'oubli, on n'a pas d'autre choix que de courir. On fait quatre fois plus de choses dans la journée que nos ancêtres. » Et il y a maintenant des groupes organisés pour apprendre à ralentir, la décélération, ou apprendre à se déconnecter. Alors, le TGV n'a pas ralenti pour autant, mais l'appel était lancé, il est urgent de ralentir. Ne plus se presser serait un besoin pressant. Pourquoi serait-il urgent de ralentir? Eh bien... parce que on risque, si on ne ralentit pas, de passer simplement à côté de la vie, de passer à côté de l'essentiel. Je lisais un livre de ma belle-sœur américaine, mariée avec le frère d'Yvonne. Alors, le livre s'intitule « Pas si vite ». Alors je l'ai lu en diagonale parce que j'avais pas le temps, mais des chapitres m'ont interpellé, en particulier ceux qui nous parlent du fait que quand on accélère trop, on passe à côté de belles choses parce qu'on est trop pressé. Trop pressé, c'était le titre d'un chapitre, trop pressé pour prendre soin des autres. Et vous savez, je vous parle d'une expérience qu'on a fait dans une faculté de théologie en Amérique. On a pris quelques étudiants, on leur a demandé de préparer une prédication sur le bon samaritain, de faire un examen de prédication sur le bon samaritain. Et ils ont divisé en trois groupes, des groupes qui étaient pressés pour aller du campus à la salle d'examen, un groupe qui était pas trop pressé et un groupe qui avait tout son temps. Et on a mis dans le passage un homme, un comédien, qui jouait quelqu'un qui allait vraiment pas bien, qui avait la nausée, qui était allongé là, qui avait besoin ou qui avait déjà vomi, enfin un gars mal en point, quoi. Et on se demandait, et l'enquête vérifiait, quels sont les étudiants qui se sont arrêtés. Quel est le pourcentage d'étudiants qui devaient prêcher sur le bon samaritain? Vous comprenez le truc? Qui devaient prêcher pour le bon samaritain, combien se sont arrêtés pour venir en aide à cette personne alors qu'ils sont sur le chemin de l'examen de prédication sur le bon samaritain? Ouf, 40% quand même se sont arrêtés. Mais quand on voit parmi les trois groupes, vous savez, les très pressés, les moyennement pressés et les pas pressés du tout, quand on prend le premier groupe des pressés par le temps, ils ne sont que 10% à s'être arrêtés. Et même certains ont enjambé le gars pour aller vite prêcher sur le bon samaritain. Mais on s'est aperçu aussi, l'enquête montre, que parmi ceux qui ne s'étaient pas arrêtés, parmi les 90% qui ne s'étaient pas arrêtés, pendant la prédication, il y avait des signes d'angoisse et d'anxiété qui se révélaient. Intéressant, hein, cette étude. Il faut être américain pour faire une enquête comme ça. On peut se demander ce qu'il faudrait faire alors, par rapport à ce temps, pour cesser d'être pressé, pour ne pas passer à côté des choses essentielles comme prendre soin des autres ou l'essentiel de la vie. On ne peut pas arrêter le temps, ce n'est pas réalisable, alors il faudrait peut-être apprendre à mieux le gérer, ce serait plus à notre portée. Et dans nos cultes, on veut aussi entendre sur ce sujet une voix différente, celle de la parole incarnée, Jésus, la parole de Dieu, et revoir peut-être notre rapport au temps. Et je vous propose de vous parler du temps en deux temps, trois mouvements, et pour vivre une vie qui a un rapport au temps différent. Gérer le temps. Et pour gérer le temps, il faudrait, ah oui, j'aime bien cette image, hein, la gestion du temps, prioriser l'efficacité. Est-ce que... Bon, c'est une réponse de notre société. Mais la Bible nous invite à voir le temps autrement. On est frappé par le nombre d'expressions liées au temps. J'aime en particulier « tuer le temps ». Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je tue le temps. Ça veut dire ? Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tuer le temps, vous vous rendez compte ? Comment peut-on tuer le temps ? Et surtout, disait quelqu'un, je cite, « Comment peut-on tuer le temps ?» sans risquer de blesser l'éternité, à méditer. Mais aussi l'expression « perdre son temps ». Je perds mon temps ici. Je perds mon temps. Cette idée que le temps nous appartient, qu'on en est le propriétaire. C'est mon temps et j'en fais ce que je veux. Si je veux le tuer, le perdre, c'est mon affaire, je fais comme je veux. C'est une idée, n'est-ce pas, qui est bien dans l'air du temps, mais qui amène aussi à un très grand stress. Être propriétaire du temps, c'est pas si facile que ça. C'est stressant, c'est angoissant. Et il y a un psaume que j'aime et qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez-vous, marquez un arrêt dans la course au temps et prendre conscience qu'il y a Dieu au-dessus de nous, pas au-dessus du temps, mais au-dessus de nous, qui est maître du temps et qui en a la maîtrise. Nous l'avons lu tout à l'heure dans l'Ecclésiaste. C'est un livre sapiential, comme on dit, de la sagesse, qui est un peu déroutant parfois. Il y a un temps pour tout. Il y aurait même un temps pour haïr. Oh ! Alors, c'est pas faire l'apologie de la haine. Il n'est pas question de justifier la haine. Prenons le temps de bien nous haïr, non ? Mais le sage nous dit que dans la succession de temps positifs et négatifs, Dieu maîtrise les choses. Qu'il est le véritable maître du temps et il nous donne ce temps et même il a placé en nous la pensée de l'éternité, la pensée du temps qui dépasse le temps. La pensée est une sorte de feeling que ce temps-ci n'est pas tout le temps, qu'il y a quelque part et auprès de quelqu'un comme un prolongement de ce temps. Et donc, il y a un appel dans l'Ecclésiaste à faire confiance que Dieu est en charge et qu'il fait, je cite l'Ecclésiaste, « toute chose bonne en son temps ». Il fait présentement, dans ce temps, toute bonne chose en son temps. Et donc Dieu est maître du temps, mais d'un autre côté, on ne peut pas simplement dire qu'on est simplement des locataires, on loue le temps à Dieu, non. Il nous donne ce temps, il nous partage, Dieu partage ce temps et il nous donne avec confiance pour que nous en fassions quelque chose de bien avec lui. C'est Martin Luther King qui disait « Ce qui importe, ce n'est pas le temps que l'on vit, mais ce que l'on fait du temps qui nous est accordé. » Voilà un autre sage qui en plus était un homme d'action et qui a bien utilisé le temps qui lui était accordé, ce pasteur baptiste. Certains parlent d'un capital que Dieu nous donne, le capital temps qui nous est confié et qu'il faudrait faire fructifier comme un compte en banque. Mais non, on est encore dans cette histoire d'efficacité, de fructification et qui est extrêmement culpabilisante et nous enferme dans la pression du temps plutôt que de nous en libérer. Et je vous propose alors de voir le plus grand chargé de mission qu'il ait jamais existé, comment il a pu vivre avec cette pression du temps, et je parle de Jésus, qui a vécu son temps d'une manière particulière. C'est le deuxième temps dans comment gérer son temps, prendre le rythme de Jésus. Quand on regarde la vie de Jésus, on avait vraiment l'impression de quelqu'un de très occupé, mais en même temps qui n'était jamais pressé. Il a eu énormément de choses à faire dans un laps de temps assez court, et jamais Jésus n'a semblé débordé. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est le Fils de Dieu, il avait d'énormes pouvoirs, c'était un super-héros. Non, on l'a dit tout à l'heure, il est parmi nous dans les limites de l'humanité. Jésus, il est homme parmi les hommes, il est frère, il est notre frère. Et il est avec les problèmes du temps et lié, soumis à la pression du temps. Et d'ailleurs, à un moment, à cause de la foule et toutes ces sollicitations, Jésus, viens, Jésus, 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 il nous est dit dans un texte qu'il n'avait même pas le temps de manger. Alors il leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Il y avait effectivement du monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent dans la barque pour aller à l'écart dans un endroit secret. Et on le voit, déjà à l'époque, en ce temps-là, on peut manquer de temps, être pris par un rythme qui nous dépasse, mais Jésus savait s'arrêter et il le fait à plusieurs reprises. À un autre moment, on voit qu'il se soustrait à la foule, qu'il s'extrait de la foule qui est pourtant là pour lui, pour qu'il les enseigne, pour qu'il les soigne. Mais il s'éloigne sur la montagne pour prier et il le fait sans se presser, il y va tout simplement. Jésus prenait le temps d'accueillir les enfants, de rencontrer les gens. Il y a une histoire particulière, celle de la femme de mauvaise vie, dont on a déjà parlé ici, mais alors que une dizaine d'hommes est prêt à la lapider, cette femme, Jésus va faire une chose inattendue, il se met à écrire par terre. Et personne, depuis 2000 ans, ne sait vraiment ce qu'il écrit. Mais il y a comme un arrêt du temps. Il écrit. Et peut-être que la tension baisse pendant cet arrêt du temps. Peut-être que la grâce arrive sur cette femme et sur ces hommes aussi. Dans un autre moment, il prend le temps de se laisser interrompre, d'aller chez des amis, je parle de Jésus, Marthe, Marie, Lazare, d'assister à un mariage. Quelqu'un faisait remarquer que le moyen de transport le plus rapide que Jésus n'ait jamais pris était une barque. Pas de TGV, une barque avec des rames, peut-être une toute petite voile, mais c'est pas très rapide une barque. Alors que tout allait très vite autour de la barque, le vent, l'eau, les marins, la tempête, il y a eu une tempête, Jésus dort, Jésus prend du repos. Et c'est ce Jésus qui va nous dire et qui va dire à ses disciples, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est léger. » Le repos du temps. Et il est question aussi d'un joug qui est léger. Et quelqu'un faisait remarquer que dans un joug, il y a deux animaux qui marchent au même rythme. Et d'ailleurs, à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, on mettait un bœuf sage, tranquille, à côté d'un jeune qui était plus fougueux. Et le plus fougueux devait marcher au même rythme que le plus sage. Jésus est avec nous sous le joug et nous pouvons marcher au rythme de Jésus. Et pour ceux qui n'aiment pas être comparés à des bœufs, dont je suis le premier, on pourrait prendre aussi l'exemple d'un guide de randonnée ou un guide de montagne. C'est lui qui donne le rythme. Pas trop rapide, pas trop lent, juste le bon rythme. Et quand on suit un guide, on est sûr d'arriver au bout. On prend le rythme. Prendre le rythme de Jésus, nous l'accorder. Nous qui suivons le Christ. Et nous sommes invités donc à marcher au rythme de Jésus qui a fait énormément sans jamais être pressé. Un des disciples de Jésus au XVIe siècle s'appelait Martin Luther. Il n'était pas le king celui-là, mais un des réformateurs de la réforme protestante, qui disait « J'ai tellement de choses à accomplir aujourd'hui que je vais passer les trois premières heures de la journée dans la prière. » Martin Luther a su appliquer dans sa vie ce que voulait dire marcher au rythme de Jésus pour lui au XVIe siècle. Bon, il était moine, enfin après il n'était plus, mais il était moine, donc il avait peut-être plus de temps. On n'a pas tous la possibilité de prier trois heures avant d'aller au boulot. Peut-être certains le font au travail, devant leur écran d'ordinateur, mais c'est plus difficile devant une classe ou à l'hôpital si on est infirmier ou si on est aide-soignant. Mais on est tous différents par rapport au temps et à la pression du temps, mais il nous faut apprendre à marcher au rythme de Jésus. Et nous sommes tous appelés, et c'est mon troisième point aussi, à racheter le temps. Voilà une expression bizarre que Paul adresse aux chrétiens qui sont à Éphèse. Il faut savoir qu'Éphèse, à l'époque, c'est 400 000 habitants quand même, au premier siècle. La capitale, l'une des capitales de la Turquie actuelle, avec un stade de 40 000 places au premier siècle. 40 000 déjà. important. Il y avait de quoi faire à Éphèse, une ville de haute intensité. Et Paul, inspiré par l'Esprit Saint, va dire aux chrétiens qui habitent cette belle ville un peu stressée, cette phrase bizarre, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Alors, le verbe « racheter » vaut le détour. En grec, dans lequel Paul écrit « ex agorizomai ». Agorizo, c'est acheter. À Bruxelles, il y a une galerie qui s'appelle la galerie Agora, je m'en souviens, je ne sais pas si elle existe encore, ça fait quand même 25 ans. La galerie marchande, où on achète. Agorizomai, c'est acheter, la galerie Agora ou le quartier des affaires, le coin des bonnes affaires. Et donc, Paul utilise ce terme pour nous faire entrer dans le monde du commerce ou des affaires et à développer une attitude commerciale par rapport au temps, d'en faire notre affaire, d'en tirer profit, d'en sortir le plus possible. Et il y a dans ce verbe une particule ex, qui veut dire sortir, hors d'eux, comme extorquer ou extraire, extorquer. Le temps et la semeur traduit, mettez, donc au lieu de racheter le temps, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Rachetez le temps. Et puis il y a cette phrase, aussi la suite du verset, car les jours sont mauvais. Avec une belle image, un détail d'une peinture de Salvatore Dali, hein, avec cette horloge qui fond, c'est magnifique, ou ce time qui s'écoule. Alors, est-ce qu'il est question de météo? Les jours sont mauvais? Non, pas du tout. Il s'agit du temps, encore une fois, qui passe et qui passe vite. Comme cette mamie, encore une mamie, que j'ai suivie jusqu'à son décès à Pau. Une mamie incroyable, Madame Peybord, Émilie Peybord, avec un vieux nom qui est du XXe siècle. Mais elle surfait sur Internet à 94, 95 ans encore. Elle écrivait au maire de Pau, hein, Bayrou. Elle écrivait régulièrement au maire de Pau. Elle faisait des recherches généalogiques, etc. Elle était active et vive. Mais elle me disait à 94 ans, 95 ans, plus je vieillis, plus le temps passe vite, et à la fin de la journée, je me dis souvent que j'ai manqué de temps pour faire tout ce que j'aurais voulu faire. Elle était magnifique, cette Madame Peybord. Les jours sont mauvais parce que on est limité et que le temps est compté, qu'il nous file entre les doigts comme il coule dans le sablier. Il faudrait donc pas plaisanter avec le temps, mais le racheter, en tirer profit au maximum, se saisir de toutes les occasions de bien faire et de faire le bien, lancer en quelque sorte une OPA sur le marché du temps, racheter le temps, se saisir de toutes les occasions qui nous sont données de simplement vivre, vivre en tant qu'enfant de Dieu dans ce monde. En tirer effectivement le maximum de ce temps qui passe en tentant de le vivre en rapport avec le Père, dans sa présence, dans une relation vivifiante et transformante avec lui, racheter le temps ou me tenir prêt à la racheter de la vanité de ce monde, comme le dit l'Ecclésiaste aussi, hein, vanité des vanités, tout est vanité, la légèreté du monde, la vacuité du monde, le vide de ce monde. Et de le racheter, ce temps, et de lui rendre à Dieu ce temps et ma vie, le maître du temps. Je me souviens de Ralph Challis, vous savez, ce prophète du XXe siècle, hein, qui dans son livre « Si tu veux aller loin », que tous les jeunes chrétiens à l'époque lisaient, raconte que quand il était jeune, il décide de donner au Seigneur la dîme de son temps. La dîme, c'est 10%. Et ça faisait 2h40 de rachat quotidien. 2h40 que Ralph Challis utilisait pour rendre son temps à son propriétaire, c'est-à-dire pour lui dans un moment de face-à-face avec lui. Saisir le temps, saisir l'occasion de vivre un moment d'éternité avec celui qui est maître du temps et qui me donne le temps de vivre avec lui. C'est pas mal pour l'homme et la femme du 21e siècle, qui ont eux aussi, même s'ils s'en cachent, la pensée de l'éternité. Et quand on parle de rachat, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jésus qui est un formidable racheteur de temps. Le temps, il en fait son affaire. Il a d'abord saisi toutes les occasions d'arrêter le temps pour être auprès de Dieu sur la montagne ou dans les déserts. Il a aussi saisi l'occasion de faire le bien autour de lui et il en avait les moyens de guérir le paralytique, de soigner l'aveugle, de pardonner à la femme de mauvaise vie. Et puis, il a surtout lancé une incroyable offre publique d'achat, une OPA, sur le temps et ses limites du temps quand un vendredi soir, il meurt sur une croix et qu'un dimanche matin, il ressuscite. Quel rachat incroyable du temps! Quelle rédemption du temps, du vôtre et du mien! Jésus fait fort avec le temps, non pas en nous enlevant dans un autre espace-temps, comme disaient les frères Bogdanov, mais en donnant de la profondeur au temps, en donnant à notre temps de l'épaisseur, en remplissant ce temps de sa présence éternelle. Et parce que Jésus est mort et ressuscité, parce qu'il a pu racheter le temps, et cela de si belle manière, il nous dit aussi, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tout le temps. » Et je me dis que cette promesse de cette présence éternelle nous laisse du temps. Du temps pour voir le temps autrement, du temps pour prendre le rythme de Jésus, du temps pour le racheter justement, ce temps. Que le Seigneur nous donne de vivre ce temps qui nous est donné justement, le temps de le vivre avec lui, par lui et pour lui. Amen.